Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn. Chapitre 14. La guerre et la santé de l'État. Première partie. La guerre est la santé de l'État, déclarait l'écrivain radical Randolph Bourne pendant la Première Guerre mondiale. En effet, alors que les nations européennes entraient en guerre en 1914, les gouvernements pouvaient se féliciter. Le patriotisme prospérait, la lutte des classes s'apaisait, et un nombre effrayant de jeunes hommes mouraient sur les champs de bataille, souvent pour quelques centaines de mètres à peine entre deux tranchées. Aux États-Unis, qui restaient pour l'instant en dehors de cette guerre, on s'inquiétait en revanche beaucoup de la santé de l'État. Le socialisme était en pleine expansion. L'IWW semblait être sur tous les fronts. La lutte des classes était intense. À l'été 1916, à San Francisco, une bombe explosa pendant un défilé militaire, tuant 9 personnes. Deux radicaux de la ville, Tom Mooney et Warren Billings, furent arrêtés et passèrent 20 années de leur vie en prison. Peu après, le sénateur de New York, James Wadsworth, proposa d'imposer une préparation militaire à tous les Américains pour prévenir le risque que « notre peuple ne soit divisé en classes. Au contraire, ajoutait-il, nous devrions faire savoir à notre jeunesse qu'elle a assurément un devoir envers ce pays. » L'accomplissement ultime de ce devoir avait lieu au même moment en Europe. 10 millions d'hommes allaient mourir sur les champs de bataille et 20 autres millions allaient les suivre, victimes de la faim et des maladies consécutives à la guerre. La tuerie débuta très rapidement et sur une grande échelle. En août 1914, pour s'engager dans l'armée britannique, il fallait mesurer au moins 1,72 m. En octobre, il suffisait de faire 1,65 m. Le même mois, les pertes s'élevant à 30 000 hommes, on abaissa la taille minimum à 1,60 m. Au terme des 3 premiers mois de guerre, la quasi-totalité des troupes anglaises, initialement engagées sur le terrain, avait été anéantie. Durant 3 ans, les lignes de front sur le sol français restèrent presque inchangées. Tour à tour, chaque camp progressait, puis reculait, avant d'avancer à nouveau, de quelques mètres ou de quelques kilomètres, tandis que les cadavres s'amoncelaient. C'est dans cette atmosphère de mort et de mensonge que les États-Unis firent leur entrée en guerre en 1917. Des mutineries commençaient à éclater dans l'armée française, comme une traînée de poudre. La révolte toucha 68 des 112 divisions françaises. 629 soldats furent jugés et condamnés, et 50 d'entre eux furent exécutés. On attendait avec impatience les troupes américaines. Le président Woodrow Wilson avait promis que les États-Unis resteraient neutres. Mais en avril 1917, les Allemands annoncèrent que leurs sous-marins couleraient tout transport de munitions destinées à leurs adversaires. Ils avaient du reste déjà coulé un certain nombre de navires marchands. Wilson déclara alors qu'il défendrait le droit des Américains à voyager sur des navires marchands dans la zone des hostilités. « Je ne consentirai jamais à ce que l'on limite en aucune façon les droits des citoyens américains. » Selon Richard Hofstadter, il s'agissait là d'une bien piètre tentative de justification. En effet, les Anglais avaient également attenté aux droits des Américains à se déplacer sur les mers sans que Wilson n'eût suggéré pour autant que l'on entrât en guerre avec eux. Hofstadter prétend que Wilson était contraint de trouver des raisons juridiques à des politiques qui ne se fondaient pas sur la loi, mais sur des questions d'équilibre, des pouvoirs et de nécessités économiques. Il était d'ailleurs irréaliste d'imaginer que les Allemands pouvaient traiter les États-Unis en pays neutre, alors que les navires américains transportaient des tonnes de matériel de guerre destiné à leurs adversaires. Au début de 1915, le paquebot anglais Lusitania fut coulé par un sous-marin allemand. Il sombra en 18 minutes. 1198 personnes périrent noyées, dont 124 Américains. Les États-Unis prétendirent que le paquebot ne transportait qu'un chargement inoffensif et que le comportement du sous-marin allemand était en conséquence un crime monstrueux. En fait, le Lusitania transportait bel et bien 1248 caisses d'obus et 4927 boîtes de 1000 cartouches chacune, ainsi que 2000 caisses de munitions pour des armes de poing. Son manifeste fut falsifié ultérieurement pour dissimuler cette réalité, et les gouvernements anglais et américains mentirent à propos de sa cargaison. Hofstadter évoque des nécessités économiques à l'origine de la politique de Wilson. En 1914, une grave récession avait frappé les États-Unis. J.P. Morgan affirma plus tard que la guerre avait débuté pendant une période difficile. Selon lui, le pays connaissait une crise des affaires, les prix agricoles étaient en pleine déflation, le chômage était important, les industries lourdes produisaient bien en dessous de leur capacité et les banques étaient également en mauvaise santé. À partir de 1915, cependant, les commandes de matériel de guerre émanant des Alliés, et en particulier de l'Angleterre, stimulèrent l'économie. En avril 1917, plus de 2 milliards de dollars de marchandises avaient été vendus aux Alliés. Pour Hofstadter, toujours, l'Amérique était désormais liée aux Alliés par la combinaison fatale de la guerre et de la prospérité. Une prospérité qui dépendait en grande partie, aux yeux des principaux dirigeants du pays, des marchés étrangers. En 1897, les investissements privés américains à l'étranger s'élevaient à 700 millions de dollars. En 1914, ils étaient passés à 3,5 milliards de dollars. Le secrétaire d'État de Wilson, William Jennings Bryan, partisan de la neutralité américaine dans la guerre, pensait néanmoins que les États-Unis avaient besoin des marchés extérieurs. En mai 1914, il félicita le président pour avoir ouvert les portes des pays les plus faibles aux entreprises et au capital américain. Quelques années plus tôt, en 1907, Woodrow Wilson avait déclaré, lors d'une conférence donnée à la Columbia University, « Les concessions obtenues par les financiers devaient être protégées par les représentants de l'État, même si la souveraineté des nations réticentes devait être malmenée à cette occasion. Les portes des nations qui nous sont fermées doivent être enfoncées. » Lors de sa campagne présidentielle de 1912, il avait également déclaré: notre marché intérieur ne suffit plus, il nous faut les marchés extérieurs. Dans une note adressée à Bryan, il décrivait son projet comme une porte ouverte sur le monde. En 1914, il déclara encore qu'il soutenait la juste conquête des marchés étrangers. Avec la Première Guerre mondiale, l'Angleterre devint de plus en plus un marché pour les produits américains et pour les prêts financiers à intérêt. Là, J.P. Morgan & Co. agissait en tant qu'agent pour les Alliés. Quand, en 1915, Wilson, leva l'interdit sur les prêts bancaires destinés aux alliés, Morgan se mit à prêter de telles sommes d'argent qu'il fit d'immenses profits personnels, tout en intéressant étroitement la finance américaine à une victoire anglaise contre l'Allemagne. Les industriels et les dirigeants politiques parlaient de prospérité comme si elle concernait toutes les classes de la société. Certes, la guerre signifiait plus de productivité et plus de travail, mais au bout du compte, les employés des aciéries gagnèrent-ils autant que la US Steel Company, qui réalisa quelque 348 millions de dollars de profit pour la seule année 1916? Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre, les riches jouèrent un rôle accru dans la gestion de l'économie nationale. Le financier Bernard Baruch obtint la présidence du Conseil de l'industrie de guerre, le plus important département de l'administration en temps de guerre. Les banquiers, les propriétaires de chemins de fer et les industriels dominaient tous ces départements de l'administration. En mai 1915, l'Atlantic Monthly fit paraître un article remarquable d'intelligence sur la véritable nature de la Première Guerre mondiale. Rédigé par W.E.B. Du Bois, l'article s'intitulait « Les origines africaines de la guerre ». Selon Du Bois, il s'agissait d'une guerre pour la domination du monde, et les combats que se livraient les Anglais et les Allemands en Afrique en étaient à la fois le signe et la réalité. Au sens le plus strict, l'Afrique est la cause première de ce terrible retournement de civilisation qu'il nous est donné de vivre. L'Afrique, selon Dubois, était la terre du XXe siècle, en raison de l'or et des diamants de l'Afrique du Sud, du cacao de l'Angola et du Nigeria, du caoutchouc et de l'ivoire du Congo, et de l'huile de palme de la côte ouest. Mais la vision de Dubois allait bien plus loin. Plusieurs années avant la parution de l'impérialisme de Lénine, qui signalait la nouvelle possibilité pour les classes laborieuses des États impérialistes de toucher une part du butin, Dubois insistait sur le paradoxe d'une démocratie plus étendue en Amérique, contemporaine de l'instauration d'un élitisme et d'une haine accrue envers les races les plus noires. Il expliquait ce paradoxe par le fait que le travailleur blanc avait été invité à partager les bénéfices de l'exploitation des Chintocs et des Négros. Oui, l'anglais, le français, l'allemand ou l'américain moyen avaient un niveau de vie plus élevé qu'auparavant. Mais d'où provenait donc cette nouvelle richesse? Essentiellement des nations les plus noires du globe, l'Asie, l'Afrique, les Amériques centrales et du Sud, les Antilles et les îles des mers du Sud. Dubois constatait l'ingéniosité avec laquelle le capitalisme unissait exploiteurs et exploités, créant de ce fait un sas de sécurité contre les dangereux conflits de classe. Désormais, ce n'est plus seulement le prince marchand, le monopole aristocratique ou même la classe dirigeante qui exploite le globe. C'est la nation tout entière, une nouvelle nation démocratique fondée sur l'union du capital et du travail. La situation aux États-Unis illustrait parfaitement les propos de Dubois. Le capitalisme américain avait besoin de cette rivalité internationale et de ces guerres périodiques pour créer une communauté artificielle d'intérêts entre riches et pauvres, propre à supplanter la communauté originelle d'intérêts entre pauvres, qui engendrait des mouvements sporadiques de révolte. Il est difficile de dire à quel point les dirigeants politiques et les entrepreneurs étaient conscients de ce phénomène. Mais leurs actes, même à moitié conscients, comme autant de réflexes instinctifs de défense, correspondaient parfaitement à ce schéma. En 1917, ce processus exigeait la création d'un consensus national autour de la guerre. Si l'on en croit les historiens classiques, le gouvernement parvint rapidement à forger ce consensus. Le biographe de Woodrow Wilson, Arthur Link, écrivait qu'en dernière analyse, la politique américaine était déterminée par le président et l'opinion publique. En fait, il était impossible de sonder l'opinion publique à cette époque, et il n'existe aucune preuve concluante que l'opinion eût désiré la guerre. Le gouvernement dut fournir un sérieux effort pour créer ce consensus. La rigueur des mesures mises en place tendrait même à prouver qu'il n'existait pas de désir spontané de combattre. Incorporation des jeunes, formidable campagne de propagande orchestrée à travers tout le pays, sévères sanctions prises à l'encontre de ceux qui refusaient de rentrer dans le rang. En dépit des beaux discours de Wilson à propos de cette guerre, pour que cessent toutes les guerres et pour sauver la démocratie dans le monde, les Américains ne se bousculèrent pas dans les bureaux d'enrôlement. Il fallait 1 million de soldats. Après les 6 premières semaines de guerre, 73 000 hommes seulement s'étaient portés volontaires. Le Congrès vota alors à une écrasante majorité en faveur de la conscription. Avec la Première Guerre mondiale, l'Angleterre devint de plus en plus un marché pour les produits américains et pour les prêts financiers à intérêt. La J.P. Morgan & Co. agissait en tant qu'agent pour les Alliés. Quand, en 1915, Wilson leva l'interdit sur les prêts bancaires destinés aux Alliés, Morgan se mit à prêter de telles sommes d'argent qu'il fit d'immenses profits personnels, tout en intéressant étroitement la finance américaine à une victoire anglaise contre l'Allemagne. Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours. Par Howard Zinn.